Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h05 sur RMC et vous avez raison d'écouter RMC parce qu'ils sont en pleine forme. Marion Bartoli, Ludo Duchesne, Jérôme Pinot en direct jusqu'à midi. On vous accompagne pendant vos vacances, vous l'avez compris, même si vous êtes au travail ce matin. Bon courage d'ailleurs si vous bossez. Et puis n'hésitez pas à retrouver le podcast DGG dès maintenant sur l'appli RMC. Notre débat de la première heure sur l'OM était évidemment enflammé après les déclarations d'Adrien Rabiot. On reparlera de foot d'ailleurs dans une heure avec la course pour le Ballon d'Or lancée depuis l'annonce des nommés cette semaine. Ousmane Dembélé fait partie des favoris, mais est-ce que le PSG doit faire campagne pour son attaquant? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Dans 30 minutes, la punchline signée Stefano Tsitsipas qui va retravailler avec son papa. Est-ce que travailler en famille, c'est forcément toxique? Ça sera dans un instant. Et puis, je vous rappelle aussi ce grand moment à venir dans les GG. Il y a quasiment un an, jour pour jour, on vivait sur RMC la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. On avait une petite larme à l'œil, évidemment, de la fin de cette parenthèse enchantée. Bah, nous, on a décidé de vous reparler de ces Jeux Olympiques aujourd'hui pour l'occasion. Exceptionnellement, on a demandé à nos GG de se souvenir de leur meilleur moment de ces Jeux. Et bien, n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous partager votre meilleur souvenir également. Et Marion, son meilleur souvenir, c'est la chanson.
Oui, la musique à chaque fois.
Ça marche. Oui,
ça donne des frissons. La cérémonie d'ouverture qui était tellement incroyable.
Voilà. Donc,
j'ai la chance de la couvrir.
On va avec Pierrot Dorian. Ah, Pierrot Dorian, bien sûr. Mais ça, c'est surtout ça le meilleur souvenir. Et dans un instant, bien sûr.
On avait un petit peu galéré pour arriver jusqu'à notre poste.
J'imagine. Bien sûr. 32-16 pour nous rejoindre et pour revivre ces bons moments. Les GG vous proposeront les meilleurs moments, leurs meilleurs moments dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du bras de fer des GG.
RMC, le bras de fer GG.
Un lion ?
Ah oui, le roi de la jungle. Vite, c'est l'heure d'un Red Bull.
Attention, parce que là, Remco Evenepoel est en train de partir tout seul. Il est en train de partir tout seul, Remco Evenepoel, à 29 km 800 de l'arrivée.
Un Red Bull ? Mais ça ne te rendra pas plus rapide que le lion.
Il a apporté une accélération qui a été fatale à Thomas Pidcock.
Pas besoin d'être plus rapide qu'un lion, juste plus rapide que toi.
Et oui, c'est un triomphe pour Remco Evenepoel. L'arc-en-ciel a surgi de la pluie, le Benjamin des Fantastiques remporte pour la deuxième année d'affilée la doyenne des classiques.
Le trésor est en dessous. Vas-y, creuse. Plus vite. Plus vite. Creuse plus vite.
Il n'y a pas que Tadej Pogacar, il n'y a pas que Mathieu Van Der Poel, il n'y a pas que Wout Van Aert, il y a aussi, qu'on se le dise, Remco Evenepoel.
Tiens, bois un Red Bull.
Je me suis amusé, le public était là, tout s'est bien passé, donc ça serait pas ma dernière course en France. Faut être content et puis il faut continuer à bosser.
Red Bull donne des ailes.
Nous ne sommes pas sponsorisés, je préfère le préciser. C'est une annonce, faut quand même le préciser. Peut-être Marion est sponsorisé, ça c'est autre chose.
En tout cas, je fais tourner la marque, vu ma quantité de Red Bull que
Bravo, on est dans la publicité.
Par ma consommation personnelle.
Alors là, on va se faire taper sur les doigts par l'Arcom, donc on va citer d'autres marques de soda à peu près pareil.
Monster Energy.
Moi, je ne les connais pas, donc vas-y, tu peux y aller. Monster Energy, je ne sais pas quoi. Crazy Tiger, on me dit aussi dans le casque.
Oui, exactement.
C'est pas le nom d'un cheval, ça.
C'est pas un nom de cheval, ça, Crazy Tiger là.
On est non,
pas
non,
dans les courses, je pense. Le 7, le 8 et le 4.
On n'est pas dans les courses, on est bien dans les grandes gueules. C'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Remco Evenepoel va rejoindre donc l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe la saison prochaine. Le Belge a signé un gros contrat qui lui permet d'ailleurs de devenir le deuxième coureur le mieux payé derrière Tadej Pogacar. Red Bull lui permettra peut-être d'avoir une équipe très compétitive autour de lui pour l'accompagner, notamment sur le Tour de France, et concurrencer les autres grosses écuries du peloton, UAE et Visma. Alors pour le cyclisme, est-ce inquiétant ou excitant? Dans la team excitant, Marion Bartoli, Ludovic Duchesne. Face à vous, le spécialiste de la question quand même. Team inquiétant, Jérôme Pinot. Alors je vais vous faire un point avant sur le sondage, puisqu'on a demandé aux gens qui nous écoutent de voter. Pour l'instant, en avance, la team excitant, 66%, 34% pour la team inquiétant.
Merci. Bravo, Marion.
Bon, Ludo, c'est bon, on a gagné. Non, on ne perdra jamais.
Il va y avoir quand même un petit débat. Oui, mais si vous perdez 1%, vous perdez le débat. C'est la règle de Pinet.
Nouvelle règle.
La nouvelle règle.
C'est la règle de Pinet. C'est comme ça.
Un scandale.
Juste avant de vous entendre, quand même, je voudrais vous faire part des mots de Patrick Lefebvre, hier, l'ancien patron d'Evenpool chez Soudal, qui dit budgétairement, nous ne pouvons plus rivaliser avec les UAE et les Red Bull. Nous n'avons jamais fait partie de la vraie élite budgétaire. En travaillant dur, nous avons accompli des miracles pendant des années avec les moyens dont nous disposions. Mais à un moment, il faut lâcher prise. Voilà les mots de Patrick Lefebvre. On va t'écouter, Jérôme, puisque c'est à toi de convaincre un petit peu ceux qui nous écoutent. Pour toi, c'est inquiétant pour le cyclisme. Hein. C'est ça la question.
La question, elle a été posée comme ça et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète énormément. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de creuser encore un peu plus le fossé qui existe entre tous ceux qui vont dominer avec l'argent et le sport. L'essence même de ce sport, l'essence même du sport, c'est la rivalité, c'est d'avoir de l'homogénéité dans les résultats, d'avoir des classements qui mettent au départ d'une course, on peut avoir un peu de suspense là, il y en a de moins en moins et il y en aura de moins en moins. Je vous donne une photographie actuelle de ce qui se passe dans le cyclisme très rapidement. Hier avait lieu le championnat de France, hein, U23, des jeunes. Premier, c'est un certain Hugo Fabrice. Hugo Fabrice, il a 22 ans et il est déjà dans l'équipe UAE
de prénom.
Nouvelle génération. Le deuxième, c'est Adrien Boichy. Adrien Boichy, lui aussi a 21 ans. Il est français, il roule pour l'Occitanie, mais il appartient à Red Bull Bora Hansgrohe. Voilà ce qui est en train de se passer dans le vélo. C'est-à-dire que tous les talents, tous les jeunes coureurs et tous les grands coureurs, comme Remco Evenepoel, à base de 20 millions pour 3 ans, vont être dans 2 à 3 équipes. 2 à 3 équipes seulement. Même Quick-Step, Soudal Quick-Step, avec les mots de Patrick Lefebvre, qui a monté cette équipe, qui a tout construit, s'inquiète du fossé qui est en train de se passer. Il dit, lui, le patron de l'une des plus grandes équipes de l'histoire du cyclisme, c'est-à-dire qu'il gagnait à peu près toutes les courses, et il a gagné à peu près toutes les courses, sauf les grands tours, évidemment.
Oui, voilà.
Ils ne peuvent plus rivaliser. Qu'est-ce qui est excitant ? C'est de voir Remco Evenepoel entouré de 5, 6, 7 équipiers. On parle là de tous ces coureurs qui en sont en train d'éclore, de Lipovitz, en passant par Roglic, qui part à la retraite, Fisch, qui va arriver. Tous ces gars-là vont faire une Dream Team. Ok, très bien. Mais est-ce que ça va être suffisant pour arriver à hauteur de Pogacar ? Je ne le crois pas. Et en dessous, c'est le désert. C'est-à-dire que tous les coureurs sont situés dans 2 ou 3 équipes. On a été très très content de voir Kevin Vauclin et de voir Jordan Zegat faire 7e et 10e du tour. Mais 7e et 10e du tour à 40 minutes, ça veut dire qu'il n'y a plus de match. Alors certes, on est content, il fait 7e, il fait 10e. Mais si on se rapporte aux statistiques et à regarder ce qui se passe sur le terrain, ils n'ont jamais existé. Ils ont fait leur course. Qu'est-ce qu'on veut voir ? Un Tadej Pogacar qui est insulté dans le Tourmalet et parce qu'on l'aime pas, parce qu'il gagne trop, il freine et on laisse gagner 2-3 accessites parce que c'est toujours les mêmes qui dominent. Ou alors on veut avoir 1-2 leaders avec des règles qui sont instituées par l'UCI. Et là, au départ d'un Tour de France, on a un minimum de suspense et au départ de toutes les autres courses. Parce que quand on regarde ce qui va se passer sur avant et après le Tour de France, en ce moment, c'est le Tour de Pologne. McNulty va gagner le Tour de Pologne. UAE. Ils gagnent toutes les courses, c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent. Et ça, pour les investisseurs de demain, parce que Ludo, je ne peux pas te laisser dire ça quand tu es passionné de cycliste, tu le sais bien, la problématique c'est aujourd'hui la survie de certaines équipes, et je pense très fort à Manu Hubert, Jean-René Bernaudot va avoir des soucis à venir très rapidement.
Bon, ça, je suis d'accord.
Comment vont-ils vendre un projet en sachant, comme dit Marc Madiot qui est notre maître à tous, Marc le dit très bien, je demande plus d'argent à mes sponsors et je leur promets moins de résultats. Voilà ce qu'on est en train de créer dans le cyclisme. Et le transfert de Remco Evenepoel en est l'illustration la plus grande. Il va y avoir vite falloir du côté de l'UCI de mettre des choses en place et de réguler tout cela. Parce que sinon, bah demain, il y aura 4 équipes dans le peloton. Mais seulement 4 équipes. Il n'y aura même plus de faire valoir comme les petites équipes. Parce que à quoi bon mettre 10 millions sur la table si c'est pour faire, etc. Voilà. Alors, ce transfert est très, très inquiétant.
Alors justement, tiens, avant de laisser la parole à Ludo et Marion, on va écouter Marc Madiot, puisque tu le citais, le patron de Groupama FDJ, qu'on connaît bien, membre des Grandes Gueules du Sport, qui était cette semaine sur RMC pour réagir à ce recrutement de Remco Evenepoel. Écoutez Marc Madiot.
La tournure des événements, elle est enclenchée depuis un petit moment déjà. Hein. Il suffit de regarder la composition d'une équipe comme UAE. Il y a 30 coureurs, il y a quasiment 30 leaders ou presque. Donc on voit bien qu'il y a un renforcement des effectifs dans les équipes mastodontes. Il y a 4 ou 5 équipes qui vont monopoliser les 100 meilleurs coureurs du peloton. Hein. Si on fait un classement des équipes en tenant compte du nombre de coureurs dans les 100 premiers ou 150 premiers du classement World Tour, eh bien, on s'aperçoit que dans toutes les équipes, il y a au minimum une bonne vingtaine de coureurs qui sont capables d'être leaders n'importe où. Donc ça pose un problème d'équilibre dans les courses. Après, c'est le rôle de l'UCI que de réguler et de mettre en place des moyens qui permettent d'équilibrer un peu la répartition des forces. C'est clair qu'aujourd'hui, la répartition des forces se fait uniquement par l'argent, et donc ceux qui ont le plus d'argent ont le plus de bons coureurs, c'est logique.
Marc Madiot, donc c'était cette semaine sur RMC. Effectivement, je pense que tout le monde ici est à peu près d'accord avec ce que tu dis, Jérôme, sur le côté peut-être dangereux du cycliste de ne plus voir d'autres équipes émerger par rapport aux mastodontes. Mais j'imagine, Marion, que toi, tu as pris aussi le côté
défi sportif.
Voilà, défi, bien évidemment. Exactement.
Défi sportif. Et c'est vrai que lorsqu'on est Remco Evenepoel et qu'on voit très bien qu'en restant dans cette équipe, il ne peut pas remporter le Tour de France alors qu'il a éventuellement le potentiel. Alors ça reste bien évidemment très difficile d'aller chercher Poggi, et ça restera toujours difficile aussi d'aller chercher Vingegaard. Mais s'ils veulent se donner la possibilité, le seul moyen pour lui, c'était de partir. Et dans ce que lui propose Red Bull, au-delà bien sûr d'avoir une équipe formée autour de lui, un recrutement XXL avec des grimpeurs qui vont l'aider à rivaliser dans les montagnes aussi, c'est tout un projet. C'est un projet sur la nutrition. Ils ont ramené le pape de la nutrition qui était avant au FC Barcelone et qui a été aussi chez la Visma, Asker Jungentrup, j'espère que j'écorche pas son nom, certainement que oui. L'aspect mental, puisque finalement, comme on est dans la galaxie Red Bull, en fait, Red Bull a une espèce de philosophie qu'en regroupant beaucoup de leurs sportifs sur des sports différents comme la F1, comme le cyclisme, comme d'autres activités où ils ont un sponsoring, finalement ils peuvent arriver à avoir des synergies qui sont bien meilleures. Donc Remco Evenepoel va pouvoir aussi bénéficier des conseils du coach mental de Verstappen. Il y a aussi un travail fait sur la performance et sur l'aérodynamisme du vélo, puisqu'ils avaient fait beaucoup de travail aussi sur l'aérodynamisme en étant capable de ramener quelqu'un qui était un coureur de champion du monde sur piste. Donc ils ont ce travail aussi sur l'aérodynamisme. Donc je pense qu'il y a aussi un projet global qui va
faire leur corps de leur aussi. Donc voilà, il y a des objectifs.
Séduire Remco, mais je trouve que en fait il y a deux éléments. Il y a la partie financière où effectivement malheureusement, et on connaît exactement la même chose en tennis, les petites équipes comme les petits tournois ont beaucoup, beaucoup de mal à survivre parce qu'ils ont de plus en plus de mal à attirer les meilleurs coureurs pour le cyclisme ou les meilleurs joueurs pour les tournois tennis. Et donc, finalement, ce sont les mastermind et tournois du Grand Chelem qui récoltent tout parce que c'est là où il y a les plus grands tableaux. Et je trouve que c'est un petit peu la même chose en cyclisme. Alors, pour arriver à réguler tout ça, est-ce que finalement, c'est de se dire, on préfère répartir les meilleurs sur plein d'équipes et puis ça va fonctionner comme ceci? Ou finalement, on se dit, certes, il y a plus de régulation, il y a plus de règles pour pas que ça soit aussi poussé à l'extrême qu'actuellement, mais quand même, on est sur un plan de développement où on va réduire le volume total des équipes proposées au départ, avec donc certainement peut-être, 8-10 équipes au maximum qui auront des capacités budgétaires et des capacités d'effectifs qui seront... qui
pourront
rivaliser
8, Marion, sur le Tour de France. Il y en a 4 voire 5. Dans les 5 que donne Marc, il y en a 5e, c'est Quickstep qui déjà dit nous on peut plus jouer.
Non mais ça c'est la photographie actuelle, je parle sur le futur. Quelle est la meilleure option pour le futur? Dans le tennis par exemple, on voit très bien que la meilleure option dans le futur, c'est pas de développer les 250 qui sont les plus petits tournois, c'est de continuer à augmenter les Master 1000. C'est là où je te pose la question, parce que j'ai pas la connaissance et ça m'intéresserait d'avoir ton avis personnel, Jérôme, là-dessus. Est-ce que tu crois que, par exemple, si l'UCI régulait pour avoir 8 très grosses équipes avec des budgets équivalents ou proches de l'UAE, de la Visma ou de Red Bull, ça serait suffisant pour avoir un Tour de France plus équilibré?
Une super team française, il n'y en aurait qu'une. C'est Decathlon, CMA, CGM, à condition que l'UCI mette en place ce qu'elle a déjà dans les tuyaux, c'est-à-dire d'installer le siège social et le siège fiscal de toutes ces équipes sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire en Suisse. Oui. À partir de là, on pourra peut-être jouer. Si on ne fait pas ça, on jouera jamais. C'est-à-dire qu'il y aura 4-5 équipes qui vont tout dominer. 8 équipes, Marion, c'est pas suffisant pour le reste de l'année. Oui. Parce que s'il y a 8 grosses équipes, j'entends et je te rejoins sur cet argument-là, oui, pourquoi pas. Mais comment faire exister les autres? on a besoin des autres équipes, surtout au long de la saison. On peut pas faire un Tour de France, un Tour d'Italie, mais un Grand Prix de Plouay, un Trobro-Léon, une Coupe de France qui fait émerger des jeunes talents avec 8 équipes seulement. C'est pas possible. On a besoin des autres, mais les autres ne viendront plus. Aujourd'hui, dans ces 5-6 équipes dont cite Marc, il n'y a plus une équipe française. Alors, avec l'arrivée de CMA-CGM, évidemment que Decathlon va pouvoir jouer dans cette cour-là. Mais encore une fois, on a Paul Sexas et on espère qu'ils vont pouvoir le garder sur du long terme. Mais derrière, c'est la Bérésina. C'est-à-dire que derrière, plus aucun manager général d'une équipe va pouvoir aller discuter à la table des entrepreneurs en disant « Mettez-nous 15 patates sur la table, on va faire une super équipe, on va aller au Tour de France ». Ben oui, mais pour faire de la figuration, par contre. 15 patates
mais
pour
faire de la figuration. Remco, il prend déjà 8 millions d'euros en termes de salaire fixe.
Mais c'est pour une équipe française.
C'est même plus que 15.
C'est impossible. Alors, parce que ça fait 30 dans un budget français.
Je comprends pas bien le débat, je suis désolé.
Pourquoi, Ludo ?
Non, mais je comprends pas le raisonnement. Non,
mais là, il y a deux visions. Il y a la vision de Jérôme, et on peut le comprendre, parce qu'il y a la vision des directeurs sportifs, il y a la vision aussi de regarder les petites équipes. Si effectivement, t'es un fan de vélo, bah, t'as envie de voir Evenepoel concurrencer, pourquoi pas Pogacar et Vingegaard lors du Tour de France.
Bah, c'est pour ça que
et donc, avoir
ça
des énormes équipes sur le Tour de France, c'est aussi bien pour l'audience. Et pour les fans de vélo,
non, mais
j'imagine.
Moi, la première raison pour laquelle j'ai dit excitant, c'est que ça m'intéresse de voir Remco Evenepoel, qui est un coureur, qui réfléchit, qui est un coureur, qui va sans doute tout faire pour essayer d'aller gagner un jour le Tour de France, même si je pense que ce sera vain, mais peu importe. En tout cas, il va dans cette équipe.
La dernière déclaration.
Non mais peu importe,
il va quand même fait 3e à sa première participation.
Voilà, et là il va rejoindre une équipe où t'as Lipovic, t'as Hindley, t'as Vlasov, t'as Dani Martinez. Voilà, donc il va peut-être se donner les moyens à la Soudal qui est plus une équipe pour les classiques. C'est vrai qu'il avait aucune chance, donc il va peut-être se donner des chances, même si je pense que Vingegaard et Pogacar seront toujours devant. Après, là où je comprends pas ton discours, Jérôme, c'est je comprends l'analyse, mais c'est le sport, il va dans ce sens-là et c'est valable dans tous les autres sports. C'est-à-dire que en football, tu ne demandes pas à Stormgrass, à Fiorentina ou à Brest de concurrencer le Barça, le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Tu sais très bien qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais ça n'empêche pas des équipes d'exister. Ça n'empêche pas les coureurs français. T'as parlé de Decathlon, heureusement. On a vu cette semaine Léo Bisio. On attend Monts et Merveilles de Paul Sexas. Les Français peuvent gagner, continue. Paul Lapeyra a été magnifique sur le Tour de Pologne. Il se passe des choses quand même avec les Français. Donc voilà, c'est pas non plus, mais dire que, il y a les grands méchants qui ont beaucoup d'argent et qui vont. Bah oui, ça va dans le sens du sport de haut niveau. Je vois pas où vous voulez en venir.
Dans le sport de haut niveau, il y a chacun. Tu parles du sport le plus populaire au monde, c'est le football. Dans le football, il y a un truc qui est commun à tous, c'est qu'il y a un championnat domestique. Il y a la Ligue 1. Et que pour des investisseurs, même si jouer contre les grands clubs, comme on appelle les mastodontes du sport, du foot, et que Brest joue contre le Real, c'est une fois dans l'année, c'est un événement. On sait qu'on va pas gagner, mais tous les dimanches, il y a des investisseurs qui vont s'intéresser à ce club local parce que ils ont du business en local, parce que le championnat met en lumière. Et là, on peut un peu plus jouer. Là, on existe. Mais dans le vélo, ça n'existe pas. Le championnat, c'est mondial toute l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Hubert qui cherche de l'argent, il promet quoi?
Mais t'as pas que le World Tour en vélo, tu dis ça, mais c'est même pas vrai.
Mais bien sûr,
tu parlais d'autres courses, et ça existe.
Mais t'as vu le Trobro-Léon, Ludo, cette année, t'as regardé le Trobro-Léon? Cette année, c'est Lotto, c'est Visma, c'est Red Bull Bora. Toutes ces courses-là, elles distribuent des points pour être au sommet mondial. Ça veut dire qu'on est en train de faire disparaître les Roubaix, les Hubert, c'est même plus la peine qu'ils existent. C'est-à-dire qu'il y a un tel fossé entre ces équipes-là que demain, Ludo, c'est pas être qualifié, c'est pas faire tourner, c'est pas ce sont des sponsors privés qui financent le cyclisme et le sport. Et là, aujourd'hui, je sais quand même de quoi je parle. Ils sont en train de s'essouffler. En France, il n'y a plus une grande entreprise qui s'intéresse aux cyclistes parce qu'on ne peut plus jouer. Voilà le résultat de tout cela. Alors, effectivement, c'est très excitant.
Non, mais peut-être que ça sera intéressant, justement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, de faire une très grande équipe française en regroupant plusieurs sponsors et pas essayer de multiplier les petites équipes. Peut-être que finalement, le modèle financier est à revoir dans sa totalité et dans sa globalité.
Ça marche pas comme ça, Marion. Tu sais très bien que chaque entrepreneur a envie de voir sa marque dans le naming co-naming. Dans le vélo, c'est naming co-naming. Le reste,
il n'y a que deux marques qui existent vraiment.
Ouais. Bah, c'est quand même des marques importantes, ça. C'est quand même des entreprises.
Demande à Marc. Ludo, t'as quand même l'occasion de croiser souvent Marc. Demande-lui ce qu'il dit à ses sponsors. Il dit donnez-moi plus, je vais avoir
bien
moins de résultats.
Bien sûr, mais ça c'est normal. Il est...
Alors, parce qu'il n'a pas l'effectif.
J'aimerais qu'on prenne Samuel qui est au 32-16 avec nous.
Parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter les grands champions surtout.
Mais bien sûr, exactement.
Jérôme, Marion, Ludo, Samuel est avec nous, fan de vélo, et il veut intervenir dans ce débat dans les grandes gueules du sport ce matin. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour l'équipe.
Salut.
Merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Ben, merci à vous de me recevoir. Donc, le débat tel que vous le présentez, il est très intéressant parce que moi, je pense que c'est la venue de Remco, elle est très intéressante pour le grand public et ça peut devenir par contre un drame pour justement les suiveurs de vélo. Donc, je vous rejoins tous les deux dans les deux arguments parce que, en fait, le suiveur qui n'est pas très régulier de vélo, il va regarder le Tour de France, il va regarder Liège-Bastogne-Liège et Paris-Roubaix. Or, la venue de Remco, du coup, dans cette équipe, elle va lui permettre justement d'essayer donc de concurrencer donc que ce soit sur Liège Pogacar et sur le Tour de France Vingegaard et Pogacar. Par contre, pour quelqu'un comme Jérôme ou moi aussi dans mon cas qui suivons toute la saison cycliste donc du Grand Prix de la Marseillaise jusqu'au à la classique Veneto en fin de saison, c'est quelque chose quand même qui est un peu inquiétant parce qu'effectivement toutes les plus grosses forces en présence sont en train de se regrouper dans 2-3 effectifs et j'avoue que ben comme l'a dit Jérôme, j'essayais de réfléchir moi aussi à ce qui s'est passé notamment cette année sur la Coupe de France. Le Grand Prix de Denain, il a été remporté par Mathieu Brennan, qui est quelqu'un de la Visma Lease Bike. Par exemple aussi, le Trobroléon, tu l'as très justement cité, Jérôme, les acteurs majeurs ont été la Lotto, ont été la Visma. Bon, au final, ça se finit bien parce que c'est Bastien Tronchon de Decathlon qui vient gagner. Mais je pense
Decathlon
qu'avec,
fait partie de ces grosses équipes-là. Hein.
Oui. Decathlon va.
Après, ce sont pas les mêmes coureurs non plus. Voilà, ils ont effectivement la même équipe, mais c'est pas les mêmes coureurs. Donc, tu peux te dire aussi.
Non, mais c'est ce que je te disais en prélude, Samuel. C'est moi, je vois hier le championnat de France espoir. Je suis très inquiet pour mon sport et dans mon pays. Les deux gamins qui sont certainement les deux pépites de demain. Alors, on ne parle pas de Paul Cessas, mais on parle du champion de France et du vice-champion de France. Il y a un très, très bon niveau chez les jeunes en France. La preuve, c'est qu'ils sont déjà engagés chez UAE et chez Red Bull. Ils n'ont plus envie de venir chez Bernardot, chez Madio.
Mais c'est normal, ils vont aller dans les plus grandes équipes.
Mais oui, mais
ils vont se donner les moyens d'aller dans les plus grandes équipes avec les meilleurs nutritionnistes, avec les meilleurs entraîneurs.
Et Jérôme, peut-être que ces jeunes dont tu parles, peut-être qu'ils font aussi des erreurs. Peut-être que quand tu es jeune, tu ne vas pas chez UAE. Déjà, c'est bouché. Ils ont une telle équipe, une telle densité. Peut-être que tu ne vas pas. Je pense que Paul Cessas, dont on attend qu'on s'émerveille, qui a des Decathlon.
Quand tu es néo-pro en France, on te propose 2000 balles. Les gamins, ils vont passer pro chez UAE, ils en ont 10 ou 12.
Ouais, enfin, s'il va chez Groupama, il sera quand même bien payé aussi. C'est pas non plus des smicards. Ils sortent pas de. Si, Paul Cessas qui est chez Decathlon.
Ils sont pas aussi bien payés que s'ils vont chez Red Bull, hein, ça c'est sûr.
Non, mais d'accord. Sauf qu'après, t'as une carrière à mener. T'as toute une réflexion à avancer.
Carrière à mener. On avait le débat sur le football la semaine dernière. Zézé est parti en Arabie Saoudite. La nouvelle génération, la carrière, ça passe après. C'est l'oseille d'abord.
C'est ce que je te dis. C'est pas forcément intelligent. Il faut aussi réfléchir à ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Oui.
On va remercier Samuel quand même d'être passé, fan de vélo, fan de Jérôme Pinault, donc j'espère. Et merci beaucoup.
Obligatoire.
Ça c'est obligé. Hein. Et tu reviens quand tu veux, évidemment, dans les grandes gueules du sport. C'est un débat qu'on pourra avoir tout au long de cette année, évidemment, parce que c'est un débat passionnant jusqu'au Tour de France.
En
évidemment.
Tout cas, avec le duo avec Lipovic, on a hâte de voir quand même.
Voilà,
quand même,
c'est sûr que quand on
aime
le vélo aussi, on a envie de voir ça, quoi. On a envie de voir les gros. Ça se ticotait. Ça se dit encore
ça, pas
ça,
moi.
Ça se ticotait. Oui, d'accord, pas toi, Jérôme.
Et donc, qui a gagné le débat
non, tu veux vraiment savoir ? Vous avez perdu 1%, la team Duchesne-Bartoli.
Ouais, on a gagné donc.
Donc la victoire pour Jérôme Pinault, malgré ses 35%.
On a 65%.
Ah, voilà. Vous avez perdu 1%.
On fait les malins sur qui va quoi. Là, en fait, à la fin, c'est quand même Pogacar qui gagne. Donc,
oui, c'est vrai.
Juste que,
oui,
voilà.
Exactement.
C'est vrai. L'église au milieu
tu sais
du village.
On fera les débats quand même pour se dire est-ce que Remco Evenepoel peut, pourquoi pas. Voilà.
La réponse est non.
Attends, il a quand même gagné la Vuelta. Il est quand même champion du monde.
On verra ça.
Il a quand même deux médailles d'or au JO.
On en garde sous le coude.
Regardez les dernières déclarations.
Vainqueur
Liège Bastogne,
attention.
Jérôme.
Les dernières déclats de Poggi, c'est de toute façon, j'ai envie de prendre mon temps jusqu'à la fin de ma carrière. De toute façon, mon équipe m'obligera à aller sur le Tour de France. C'est la plus belle et quand je vais sur une course, je veux gagner.
Voilà.
Donc je peux vous dire que les autres doivent préparer la Vuelta et le Giro.
On va parler dans un instant dans les grandes gueules du sport de Stefano Tsitsipas. C'est de sa punchline. C'est la punchline du jour. Il va retravailler avec son papa, une association qui n'a pas toujours été très simple. On en parle dans un instant sur RMC dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h30, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct aujourd'hui, ce dimanche. Bon dimanche à tous, bien sûr, à l'écoute d'RMC. Marion Bartoli, Ludo Duchesne, Jérôme Pinot ce matin. Dans un instant d'ailleurs, ils vont nous donner leurs meilleurs souvenirs des Jeux Olympiques, quasiment un an jour pour jour après la cérémonie de clôture des Jeux 2024. Et n'hésitez pas à nous appeler au 3216 pour partager votre meilleur souvenir en direct dans les GG ce matin. Mais d'abord, on va passer à la punchline. Elle est signée aujourd'hui Stefanos Tsitsipas, le joueur de tennis qui a décidé de retravailler avec son papa. Écoutez.
RMC, la punchline GG.
Quand j'ai commencé à travailler avec Goran Ivanišević, j'ai réalisé que je devais peut-être faire un dernier essai avec mon père, lui donner une nouvelle chance d'être proche de moi. Travailler avec Goran était super. C'était bien d'avoir avec moi quelqu'un que j'avais choisi, mais il manquait quelque chose dans notre relation. Je veux continuer à travailler avec mon père jusqu'au dernier jour de ma carrière.
Ouais, Siri, elle galère avec Ivanišević.
C'est
Goran Ivanišević.
Ivanišević, Siri, il faut que tu apprennes quand même. Mais je ne sais pas si cette intelligence artificielle apprend vite, parce que maintenant elle est dépassée complètement.
Stagiaire, stop. À un moment donné, hop, au revoir.
Elle est complètement dépassée, Siri, malheureusement. Bon, on va la garder un petit peu dans les grandes gueules du sport quand même, parce qu'on l'aime bien. Stefanos Tsitsipas, qui a donc annoncé fin juillet qu'il mettait fin à sa collaboration avec Goran Ivanišević pour renouer avec son père Apostolos. La nuit dernière, il a d'ailleurs gagné son premier match à Cincinnati face à Marozan depuis qu'il retravaille avec son papa. Il est revenu dans une interview cette semaine sur le passé conflictuel entre les deux hommes. Nous ne nous crions plus dessus comme ce fut le cas. Aujourd'hui, nous avons une relation plus apaisée. Avec mon père, nous devions changer beaucoup de choses dans notre façon de nous comporter l'un envers l'autre. Mon père est plus à l'écoute de mon ressenti qu'avant. Un an après, les deux hommes sont donc associés pour redonner de l'élan à la carrière du Grec qui est aujourd'hui 29e mondial. D'où ma question, les GG, ce matin. Travailler en famille, on parle de sport évidemment, est-ce forcément toxique? Oui ou non? Est-ce que c'est toxique? Ludo Duchesne.
Oui.
Jérôme Pinault.
Non, mais ça peut abîmer.
Marion Bartoli.
Non.
Alors, effectivement, pour Tsitsipas, même Ivanišević à l'époque avait expliqué la seule personne capable de l'entraîner, c'est son père. Et c'est ça qui est quand même assez fou. C'est-à-dire que malgré les dissensions, Marion, toi qui connais quand même ce dossier, il ne peut pas travailler avec quelqu'un d'autre qu'avec son papa, quoi. C'est ça la conclusion.
Inquiétant, ouais.
Alors, il y a plusieurs éléments dans l'histoire de Stefanos Tsitsipas. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est un joueur qui va avoir 27 ans dans deux jours, qui a construit tous ses meilleurs résultats il y a maintenant 2-3 ans, puisqu'il atteint la finale de Roland-Garros et de l'Open d'Australie. On est en 2021 pour Roland-Garros, on est en 2023 pour l'Open d'Australie. Deux fois, il perd sur Novak Djokovic, dont la finale de Roland-Garros en 2021 où il mène 2-7-0. Et je pense qu'en fait, un des tournants déjà majeurs de sa carrière, ça a été cette défaite face à Novak en finale de Roland-Garros où il était plus qu'à 1-7 de son bonheur ultime. J'ai eu la chance de l'interviewer sur le terrain lorsqu'il remporte la demi-finale pour se qualifier donc pour sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem dans sa jeune carrière. Il était ému aux larmes lorsqu'il se qualifie pour sa première finale de tournoi du Grand Chelem. Il y avait vraiment cette volonté d'aller chercher ce premier titre. Et là, vous l'avez évoqué à nouveau dans son classement et puis surtout dans ses résultats récents qui sont extrêmement préoccupants. Il s'en éloigne de plus en plus. Donc, lorsqu'il prend Goran Ivanišević, il est déjà dans un état d'esprit et une période de sa carrière qui est loin, mais alors très, très loin d'être la meilleure. Et lorsqu'on a été formé, entraîné toute sa vie, toute sa carrière par son papa, on a des habitudes de travail qui sont extrêmement dures à changer. Surtout pour Goran Ivanišević, qui lui a entraîné Novak Djokovic, qui était aussi quand même quelqu'un à fort caractère, mais qui avait une structure familiale qui le suivait simplement sur les tournois, mais qui n'avait pas été sur le terrain avec lui. Donc je pense qu'il s'est heurté à plusieurs éléments. Le premier pour moi, c'est quand même un entraîneur... qui a eu des habitudes avec Novak qui sont difficilement transposables avec le jeu de Stefanos Tsitsipas, qui a quand même un style de jeu qui est complètement différent de celui de Novak Djokovic. Effectivement, un joueur qui a pris beaucoup d'habitudes familiales, mais pour moi, ces habitudes familiales sont pas du tout antinomiques avec la performance de haut niveau, puisque les meilleurs résultats de Stefanos Tsitsipas, il les a obtenus quand son papa l'entraînait. C'est quand même un joueur qui a gagné 3 Masters 1000, alors 3 fois Monte Carlo, mais c'est quand même 3 Masters 1000. Il a gagné le Masters de fin d'année, il a été 3e joueur mondial. On peut pas dire que son papa a fait du mauvais travail. En revanche, que lorsqu'on soit sur
Non, mais la relation est compliquée. Voilà. C'était la relation qui était compliquée.
Lorsqu'on est sur un sport individuel avec beaucoup de tensions nerveuses au quotidien, parce que vous êtes seul sur le terrain, que vous pouvez pas passer le ballon à quelqu'un d'autre ou sortir au bout d'une mi-temps, il y a forcément de la tension. C'est un sport qui est extrêmement exigeant sur le plan psychologique. Ouais. Vous jouez dans le monde entier pendant 10 mois consécutifs. Il y a cette pression des points à défendre, il y a ce statut à défendre, etc., etc. Beaucoup de joueurs en ont parlé. Très peu ont été capables de réitérer des performances avec une constance au plus haut niveau. Alors les trois monstres, effectivement, l'ont fait pendant 15 ou 20 ans. Ils nous ont habitués comme si c'était normal chaque année de gagner des tournois du Grand Chelem, comme si c'était normal chaque année d'être au plus haut niveau. Non, ce n'est pas normal. Ce sont des performances qui sont extrêmement rares, qui sont extrêmement difficiles à enchaîner. Et je pense que Tsitsipas s'est retrouvé dans un moment de sa carrière où à la fois, il y avait la volonté de progresser, parce qu'il se voyait bien qu'il était en train de diminuer en termes de niveau de jeu, mais pour rentrer dans une structure sur un joueur qui a 27 ans, enfin qui va avoir 27 ans, il était à quelques mois d'avoir 27 ans quand Goran Ivanišević est rentré dans sa structure. Marc Philippe aussi, ça avait fait aussi 2022-2023 en coach assistant, pas en coach principal. Je pense que c'est extrêmement compliqué. Mais est-ce que le nœud du problème, c'est son père? Non. En revanche, il y a des problèmes techniques pour Stefano Tsitsipas qui va avoir du mal à régler, notamment son revers. Ouais. Mais je pense pas que son papa soit la raison pour laquelle il a eu une baisse de niveau de jeu, une baisse de résultats.
En tout cas, il revient vers son papa.
Plein d'exemples montrés. Tony Nadal a entraîné pendant des années Rafael Nadal.
La question, c'est sur
Serena Williams a entraîné pour son papa. Je peux vous citer des dizaines et dizaines d'exemples.
Je pense que Marion. Alors après, moi, l'expérience de Marion m'intéresse aussi. Mais là, en l'occurrence, je pense que il faut beaucoup de courage pour quitter son cercle familial. Beaucoup de courage, beaucoup de volonté. C'est jamais facile parce qu'évidemment, c'est ton père, c'est ta mère. Après, moi, je suis quand même étonné de ce que nous dit Marion parce qu'il y a tellement de contre-exemples dans le tennis, particulièrement dans le tennis, chez les jeunes, puisqu'on le voit quand tu couvres, moi Marion, j'ai couvert pendant plusieurs années le tournoi des petits as, j'ai vu des comportements tellement dingues de parents, et ça c'est vraiment spécifique au tennis, mais pour aller encore plus loin dans ceux que nous connaissons qui ont fait les grandes heures du tennis, je pense à Arantxa Sanchez, je pense à Mary Pierce, à Ravan Rezaï, je pense à Jennifer Capriati, même Martina Hingis qui a dû quitter sa mère parce qu'à un moment donné, c'était plus possible de travailler avec que ce soit sa mère ou son père. Alors il y a peut-être des contre-exemples, quoique avec la famille Williams, mais l'intelligence de Richard Williams, c'est à un moment donné quand même d'avoir mis ses filles dans les meilleures conditions et après de les avoir cédées à un entraîneur qui fait le métier et la relation père-fille ou
Serena avait déjà gagné 12 ans en chelem, hein,
oui,
avec
mais donc, qu'il a eu cette intelligence.
Alors pour parler de Serena Williams dans cet exemple extrêmement concret, parce que là, je les ai affrontés, je les connais extrêmement bien. Richard Williams, à un moment donné, sur le plan de sa santé, n'était plus en capacité de pouvoir continuer à voyager avec sa fille. Et aux racines, la maman était systématiquement présente. Il y a une présence et une empreinte familiale extrêmement forte.
Pour ce qui est de Roger Federer, même si c'était pas entraîné. C'est vrai qu'il y a des contre-exemples.
C'est tennis-tico-tennis, mais la relation athlète-famille, elle est présente dans tous les sports. Et là, on parle de résultats sportifs, mais il faut aller au-delà. Oui. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec mon frère. Il m'a entraîné, il m'a accompagné dans ma carrière, et aujourd'hui, on est co-gérant d'un magasin de sport tous les deux. Je peux vous dire que la relation
dans
le travail, elle s'améliore. Ouais, exactement.
Allez, touche ces gens de Pinot.
Allez, vas-y. Mais la relation dans le travail, elle est bonne, mais celle qui est à l'extérieur, elle en pâtit. Est-ce que tu travailles avec ton frangin?
C'est obligatoire, mais oui.
Tu vis avec ton frangin. Donc les résultats, ils vont bien, ils vont mal. La relation entraîneur-entraîné, elle est bonne, elle est moins bonne. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur, quand tu passes ton temps avec ton entraîneur qui est ton frère, ton père, ta mère, ta grand-mère ou ta...
Et encore, c'est ton frère, là, mais quand c'est ton père ou ta mère, je pense que c'est encore différent.
Mais moi, tu vois, mon expérience à moi, moi qui suis en train de vivre cela depuis 20 ans, je suis désolé, mon frangin, j'ai moins le plaisir de le voir en extérieur parce que je passe mon temps avec. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Quand tu es entraîneur, entraîné, évidemment qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Et quand c'est pas dans le bon sens, ça crée des tensions. Les résultats sont bons, sont pas bons.
Dans le cas de Tsitsipas, c'est Apostolo, c'est son père qui a pris le dessus. Il a quand même, lui, un comportement dont on peut parler aussi. Il y a eu tellement d'esclandres, tellement de dérapages de la part de son papa, qui nous dit d'ailleurs, moi j'ai lu des interviews, il va changer, il va s'arranger, alors que lui, il est déjà assez âgé. Et donc, on peut penser que ce qu'il nous dit, moi je suis pas sûr que ce soit intelligent de la part de Stefanos, et je dis pas que c'est facile, de se remettre avec son papa. Je suis pas sûr du tout. Même si Marion,
dans un conflictuel, effectivement.
Il
a eu des résultats, etc. etc.
Alors, Marion, toi,
je vais vous prendre un exemple très concret, puisque ça a été un événement majeur de cette année. C'était à Roland-Garros, il y a quelques semaines, où il y a eu l'hommage à Rafael Nadal sur le terrain. Et donc, il y a eu un discours extrêmement long, extrêmement émouvant de Rafa. Et il y avait Tony Nadal, qui a été son formateur, son oncle, son entraîneur de toujours. Premier rang, la loge présidentielle. Les mots de Rafa, réécoutez-les. C'est d'ailleurs le quasiment un des seuls moments du discours. Il a vraiment pleuré parce qu'il y avait énormément d'émotions. Pour connaître extrêmement bien Tony, pour avoir discuté avec lui, pour avoir eu la chance de l'interviewer, personne, il n'y a aucun entraîneur qui n'a pas une relation familiale avec un entraîné, qui investira autant de temps qu'une personne, une famille a pour investir pour.
D'accord, Marion, mais est-ce que Tony Nadal, est toujours le tonton de Raphaël? Est-ce
qu'il
est, est-ce qu'il va à la plage avec Raphaël? Est-ce qu'il passe des moments en famille avec Raphaël?
Je vais te raconter un petit peu ma vie. Je suis actuellement à Mallorca dans l'académie de Raphaël Nadal au moment où je fais cette émission. J'ai passé ma journée hier avec Tony puisque j'entraîne une jeune joueuse et je voulais que Tony lui donne des conseils et la voie jouer. Et le soir, il allait dîner avec Rafa puisque Rafa vient d'accueillir son deuxième enfant. Donc il y a toujours ce nœud familial. Il y a toujours ce nœud familial extrêmement présent. Ce qui est très important. Le message que je vais vous faire passer, j'étais avec Martina Hingis il y a deux semaines.
Est-ce qu'on est sûr que c'est l'exemple?
Elle venait de gagner.
L'exemple, je crois pas.
Non, mais Martina Hingis venait de gagner, puisque tu as cité Martina Hingis. Oui. Martina Hingis venait simplement de gagner le tournoi des légendes de Wimbledon. On n'était pas en train de parler d'un tournoi du Grand Chelem. Elle a appelé sa maman pour la remercier de l'avoir aussi bien
formée. Ça reste sa mère,
à 45 ans, bien joué. Vous pouvez pas demander à un entraîneur qui est simplement un entraîneur. Aujourd'hui, Juan Carlos Ferrero est quasiment le deuxième père de Carlos Alcaraz. Le temps qui passe avec son joueur,
pareil,
vous devenez quasiment une personne de sa famille. Et il a son père et sa mère qui sont juste derrière dans la loge pour assister à ses matchs. Vous avez besoin de ce cercle familial. C'est trop difficile.
Marion, elle sait de quoi elle parle. Elle a travaillé
avec ses parents.
C'est trop difficile de voyager seul. C'est trop difficile de passer des mois et des mois sans voir votre famille. C'est trop compliqué sur le plan psychologique. Alors, bien sûr qu'il y aura des moments de tension. Bien sûr qu'il y aura des moments où ça explosera. Mais ça explosera avec un autre entraîneur. Combien de joueuses ont changé d'entraîneur 2-3 fois dans une année? On en a à 5 ou 6 ans sur le circuit professionnel, j'en ai déjà eu 5 entraîneurs parce que ça leur convient pas. Il y a des difficultés dans tous les cas, que ce soit avec vos parents, avec un membre de la famille ou une autre personne. La seule chose qui est indéniable, les seules personnes qui voudront vraiment du plus profond de leur cœur votre bien et votre réussite, ça sera votre famille. Vous ne pourrez jamais demander à un entraîneur d'investir autant de temps que votre parent va investir pour vous.
Mais tu peux vouloir si du bien sans faire partie du cercle proche de
l'entraîneur. Non mais il y a des trucs graves.
Non mais ça n'a rien à voir.
Non mais il y a bien sûr qu'il y a eu des débordements, mais il y a eu des débordements.
Mais grave.
L'entraîneur de Rybakina qui est pas son père. Il a été suspendu pendant un an du circuit WTA. C'est pas son père. Il y a eu des excès dans les deux cas.
Non mais elle n'arrive pas à s'en sortir. Rybakina, c'est un bon exemple.
Ben oui, mais
elle s'en sort
quoi,
pas en fait.
Elle a fait quoi? Elle a repris son ancien entraîneur qui avait été suspendu pendant un an.
Mais oui, mais parce qu'il paraît qu'elle est totalement sous son emprise, elle n'arrive pas à s'en défaire.
Mais ça, c'est un problème d'entraîneur, pas de famille. C'est pas lié à la famille.
Non, mais regarde, Arantxa Sánchez qui a eu des problèmes très graves avec ses parents, qui a porté plainte contre eux. Là, c'est comme si, Mario, je comprends ce que tu dis par rapport aux parents. Évidemment, on a tous des parents, les aime, etc. Mais il y a eu des choses extrêmement graves. Et surtout quand c'est des joueuses d'ailleurs, avec des relations extrêmement toxiques. Donc évidemment dans leur jeu, dans leur carrière, mais pas seulement, pour leur santé mentale. On a vu des choses, des joueuses qui ont complètement explosé parce que autour d'elles, souvent leur papa les détruisait ou se servait d'elles. Il y a eu quand même des choses dans le tennis, et Marion, je suis étonné que t'en parles pas, extrêmement d'une extrême gravité qu'on peut pas éluder.
Non mais Ludo, il y a eu des cas, certains cas. Alors pour parler de Marie-Pierre, c'est encore une fois qu'une amie que je connais extrêmement bien. Elle était extrêmement proche de son papa. Et lorsque son papa est malheureusement décédé, elle était dans une détresse qui était profonde.
Donc
il faut pas parler des choses qu'on lit simplement dans les journaux. Il faut parler des cas concrets. Moi, c'est des gens que je connais, avec qui j'ai pu discuter, qui sont des amis profondément, où j'ai passé beaucoup de temps avec elle. De la même manière avec Martina Hingis. Faut pas regarder simplement la partie extérieure. Sur un sport individuel qui est aussi compliqué psychologiquement que le tennis, surtout avec des filles où vous êtes amené à voyager avec votre propre entraîneur si vous êtes seul pendant 10, 11 mois consécutifs, ou si du coup votre famille a pas d'impact sur votre carrière, vous les voyez absolument jamais. Ce sont des situations dans les deux cas qui sont extrêmement compliquées. Qu'il y ait des abus sur les parties familiales, je suis d'accord. Il y a eu des abus d'autres entraîneurs. Il y a eu des entraîneurs qui ont violé certaines joueuses quand ils les entraînaient. On a eu des cas, on a eu des procès. Aussi. Il y a des difficultés dans les deux cas. Je dis pas que l'un et l'autre sont tout blanc ou tout noir. Ce que je dis, c'est que pour Tsitsipas, c'est ce cas concret. Il a eu ses meilleurs résultats avec son papa. Son papa l'a formé depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Effectivement, la personne qui le connaît le mieux sur le plan tennistique, c'est plutôt son papa qu'un entraîneur extérieur. Maintenant, est-ce que ça va refonctionner? C'est toujours la difficulté, on ne sait jamais si ça va refonctionner.
Ça sera
mais
la question.
Mais en tout cas,
ce qu'a
dit Ivanisevic, pardon, je vais y arriver.
Tu vas faire comme Siri.
Voilà, exactement. Siri m'a pollué. Sur Tsitsipas, ça, par contre, c'était extrêmement intéressant parce qu'effectivement, pour moi, il a une perte de résultats, non pas sur le plan tennistique, mais sur le plan physique, où il est passé sur un niveau physique qui devient pas possible avec le niveau d'exigence de la compétition aujourd'hui.
Alors, on reviendra, évidemment. C'est un débat, bon, passionnant. Évidemment, on aura l'occasion de, d'y revenir sur la famille dans le sport, évidemment, et cette présence très importante, et notamment dans le tennis. Vous restez avec nous parce que dans un instant, les grandes gueules du sport vont remonter le temps. En quelque sorte, on va pas aller si loin. On va aller l'an dernier, il y a quasiment un an, jour pour jour, on fermait la parenthèse enchantée des Jeux. Ben nous, on a décidé de vous faire revivre les meilleurs moments des Jeux Olympiques, les meilleurs moments des GG. C'est dans un instant et avec vous, on vous attend aussi au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Jérôme Pinault, Ludo Duchesne, Marion Bartoli ce matin dans les grandes gueules du sport. Dans un instant, on va parler du Ballon d'Or. Les GG vont passer la seconde et on va vous dire qui sera Ballon d'Or. Non, je plaisante, on ne le sait pas. Les nommés ont été annoncés cette semaine.
C'est Jérôme.
J'aimerais bien. Ah bah oui, Jérôme, bien sûr, bah c'est notre Ballon d'Or. 9 joueurs évidemment, du PSG évidemment. Dans Ousmane Dembélé. Est-ce que le PSG doit faire campagne pour Ousmane Dembélé? Vous entendrez Hakimi, qui lui aussi aimerait bien avoir le Ballon d'Or d'ailleurs. Donc, il l'a dit hier, 32-16 pour nous rejoindre demain. Non, mais d'abord, allez, on va se faire plaisir, on va revenir un an en arrière pour notre plus grand plaisir à nous et j'espère à vous, ceux qui nous écoutez.
RMC, Jeux Olympiques Paris 2024, un an après.
Allez, si on laissait la musique en entier là.
Oui,
on adore. On va quand même faire un peu de radio. Il y a quasiment un an, jour pour jour, on vivait donc sur RMC la fin des Jeux Olympiques 2024. C'était le 11 août 2024, parenthèse refermée avec la cérémonie de clôture. On a vécu ce moment de façon exceptionnelle, tous ensemble sur RMC. Aujourd'hui, on tenait justement à demander à nos GG de retenir un moment. C'est pas facile, hein. Le plus beau moment de l'été dernier, le meilleur des moments. Et on va commencer par toi, Jérôme. Quel était ton meilleur moment l'année dernière?
Il y en a eu beaucoup, bah énormément, oui. Évidemment. Moi, j'ai vécu notamment les doubles médailles de Madouas et Laporte sur la route, arrivé devant la Tour Eiffel, c'était magnifique. Mais moi, il y a un moment qui m'a marqué parce qu'on attendait ça et ça reste du vélo. Donc, ça a été juste fantastique. C'est depuis 1924, on n'avait pas assisté à un triplé. C'est le triplé du BMX, Dodé, André et Mathieu. C'était pour moi une image de ces trois Français-là qui dominent leur discipline, qui vont après la ligne, chacun pense à l'autre. Ils passent la ligne, ils sont médaillés d'or pour Dodé, qui est c'est le seul titre qui lui manquait. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se retourne pour savoir si ses deux potes finissent aussi sur le podium. C'est une image qui m'a beaucoup marqué. Trois Français sur les trois plus hautes marches, avec cette ambiance au BMX à Saint-Quentin qui était juste folle. Une discipline peu connue qui est très olympique, parce que je trouve qu'on ne fait pas assez de focus sur cette discipline-là. Seuls les Jeux portent le focus sur celle-ci. Alors, c'est en dehors des Riner et des grands titres de la France, des marchands, etc. Mais moi, c'est l'image qui m'a marqué.
Ce
ça a été un très, très grand moment.
Ouais. C'était à Saint-Quentin-en-Yvelines, le 2 août 2024. On a fouillé dans
exactement.
Nos archives. On
juste
est pas
après le troisième titre de Teddy et le quatrième de Léon Marchand.
Et ben, au commentaire, c'était Arnaud Souk. Souvenez-vous.
Et c'est parti. Exactement. La rampe de lancement avec l'excellent départ de nos trois Français, avec Romain Maillot qui va virer en tête avec Joris Dodé et Sylvain André au premier virage. Ils sont trois aux trois premières places. Joris Dodé, le dernier virage avec toujours Sylvain André dans sa roue et Romain Maillot en troisième position. Ils vont le faire les Français. Le triplé français. Joris Dodé, Sylvain André, Romain Maillot, le triplé de l'équipe de France de BMX. L'équipe de France de BMX en apesanteur ici à Saint-Quentin. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Français? On avait l'impression que c'était écrit d'avance, mais non, rien n'est écrit. Et ils l'ont fait, et ils peuvent jubiler sur la piste. Ils peuvent jubiler.
Voilà ce grand moment choisi par Jérôme Pinault. Ludo,
c'était fort. Écoute, moi j'ai eu cette chance-là. D'ailleurs, t'étais pas très loin de moi quand ça s'est passé, de commenter l'escrime aux Jeux Olympiques. C'était au Grand Palais, sous la nef du Grand Palais, dans un décor absolument somptueux avec les escrimeurs qui descendaient comme ça sur la piste. On sait que l'escrime rapporte énormément de médailles. Là, c'est encore 7 médailles. Elles ont été absolument magnifiques. Et c'est vrai que cette finale 100% française au sabre et la victoire de Manon Appiti-Brunet sur Sarah Balzer, ça a été, d'ailleurs, j'en ai des frissons quand je te le raconte. Ça a été un très, très grand moment. Et son mari qui rentre, Bolladé Appiti, qui lui aussi a été médaillé de bronze par équipe, qui rentre sur la piste, qui la porte en triomphe. Mmh. Écoute, ça a été pour moi là, un moment extrêmement émouvant, les larmes, etc. Et c'est vrai que c'était beau.
29 juillet 2024, cette finale du sabre féminin. Manon Appiti-Brunet contre Sarah Balzer. C'était Julien Taxis qui était en direct sur RMC à l'époque.
14-12, elle ne peut pas lâcher Sarah Balzer dans cette finale 100% française irrespirable.
On a un score qui se veut très
allez,
serré.
Elle a encore deux occasions de terminer avant une éventuelle mort subite. Manon Appiti-Brunet, 14-12 pour devenir championne olympique. Elle avance Manon Appiti-Brunet, mais allez, Sarah Balzer revient en pousse, milieu de piste. Sarah Balzer,
ça y est, c'est Manon championne olympique,
championne olympique désormais pour l'éternité, Manon Appiti-Brunet.
Dans le cadre du Grand Palais, Ludo. Magnifique.
Et en sabre, c'était la première fois, donc c'est important. Il faut dire aussi que Manon, depuis, a pris une petite pause juste après les Jeux, elle est devenue maman il y a quelques fin juin. Ouais. Donc voilà, tout, c'est beau.
C'est magnifique. Marion, qu'est-ce que tu veux?
Alors moi, comme j'arrivais pas à choisir entre Léon Marchand et Katie Rainer, mes camarades m'ont suggéré Léon Marchand qui fait du judo. Effectivement, je trouvais
ou
Thierry Rainer
qui fait de la piscine. Voilà.
C'est pas mal,
j'ai bien l'image.
Alors du coup, je sais pas ce que notre réalisateur Kylian a choisi, mais
c'est
mais,
toi qui dois choisir, Marion. Tu choisis ce que tu veux et après le réalisateur. Voilà, il
trouve tout de suite.
Mais il faut choisir Léon Marchand. Alors je redis, le 31 juillet 2024, avec cette finale notamment mythique du 200 mètres papillon.
Oui, mais bon, le tirage au sort, la défaite de Teddy
Riner,
sur Teddy.
3 août 2024.
Avec Morgan Mori au commentaire.
Voilà, t'as choisi.
Bon, alors, on va écouter Teddy.
Allez, Teddy.
Alors, Teddy Riner, 3 partout à l'issue des 6 premiers combats. Et tout se joue sur un combat et le destin fait le reste. Morgan Mori au commentaire.
Allez, plus 90, moins de 73, moins de 70, plus de 90, c'est Teddy,
c'est énorme. Quel scénario de dingue. Deux pénalités de chaque côté pour la gagne dans ce tournoi par équipe.
C'est un champion tédien. Allez, on s'y gagne.
Ça donne des frissons encore, c'est incroyable. Cette roulette là, moi je me souviens, j'étais au Club
c'est
France.
On a presque plus de frissons au tirage au sort qu'à la victoire.
Exactement, non mais Morgan, en fait, quand
c'était
tu
exceptionnel.
On a
l'impression que c'était fait exprès là.
Ça, c'est génial pour le
c'était
judo, c'est super.
Non mais franchement, c'était exceptionnel. Tiens, on va te faire plaisir, Marion. C'est vraiment parce que c'est toi, Léon Marchand, 31 juillet 2024, 200 mètres papillon, Julien Richard en commentaire.
Il est très en avance, Christophe Milak. Léon Marchand, deuxième position. Allez, c'est coulé. Pousse-le à 15 mètres.
Allez,
Léon Marchand. Les derniers 50 mètres.
Il attaque.
Il va attaquer. Et c'est maintenant que ça va jouer parce que Christophe Milak, est-ce qu'il a tenté de bluffer et de partir trop vite? Léon Marchand revient à 15 mètres maintenant. Milak est devant. Milak est devant. Mais Léon Marchand, il va passer devant. Il va le faire. Mais oui. Mais oui. Léon Marchand, champion olympique. Le deuxième titre olympique. Oh, exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Léon Marchand, le petit geste de la main. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, messieurs dames?
Incroyable, hein, Julien Richard, il a retrouvé sa voix depuis. il remporte en plus moins de deux heures après le 200 mètres bras, ce qui fait une journée extraordinaire pour Léon Marchand. Tiens, on vous a demandé au 32-16 vos meilleurs souvenirs. Vincent est avec nous. Salut Vincent.
Salut les grandes gueules.
Salut Vincent.
Alors Vincent,
bonjour. Salut Vincent.
Tu choisis ce que tu veux. Kenny est en régie avec Kylian. Ils sont prêts. Ils vont retrouver ce que tu as choisi
et
le moment pour le revivre. Qu'est-ce que tu...
Alors, moi, il y a deux moments. Déjà, c'est la voix les deux Françaises, Charlie Picon et sa compatriote pour la médaille de bronze à Marseille pour la Marina Olympique. Et le deuxième, qu'il faut mettre en valeur, j'ai été bénévole pendant les Jeux Olympiques à Marseille, donc à la Marina Olympique. Et le plus grand moment pour moi, c'est les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, et merci à Monsieur Estanguet et toutes les Jeux français de nous avoir mis en lumière. Parce que sans nous, suis désolé, je suis vantard, mais sans nous,
ah bah les bien Olympiques sûr. Non, mais c'est vrai. Vous étiez pas, super vous avec vos maillots verts, vous adorez les bénévoles.
Oui,
absolument.
Ce n'aurait pas été la réussite qu'ils ont été.
Bien sûr. Vous avez, bah alors là, c'est validé, tout à fait raison, Vincent. Il a raison de le rappeler parce que, comme son nom l'indique, c'était bénévole. Hein, donc voilà, c'est vraiment bravo, Vincent. Tiens, tu parlais de Charline Picon. C'était Pierre-Yves Leroux qui était au commentaire sur RMC. On l'écoute.
C'est la médaille de bronze.
Oui.
Normalement, médaille de bronze pour les Françaises. On peut l'annoncer. On attend toujours. Il y a toujours du stress un petit peu du côté de la voile parce qu'il peut y avoir des réclamations,
oui.
etc.
Allez,
mais normalement, c'est bon. Allez, on peut le dire. Médaille de bronze pour les Françaises parce qu'il y a quand même de la marge sur les Norvégiennes, les Néerlandaises.
Allez, en fait, la première.
Mais en tout cas, pour les Françaises, ça devrait pas trop bouger. Moi, j'ai toujours la troisième place, la médaille de bronze pour les Françaises. Vous entendez les applaudissements juste derrière nous. C'est officiel. C'est tout bon. Pour Charline Picon et Sarah Steyer, c'est un exploit véritablement.
Voilà, petit cadeau pour toi, Vincent. Voilà, tu voulais qu'on reparle de Charline Picon notamment. Merci beaucoup, Vincent, et n'hésite pas à revenir sur RMC. Tiens, moi j'avais un moment à vous faire écouter. Alors c'est hors français parce que c'est vrai qu'il y a eu évidemment, on a suivi les performances françaises, mais c'est un peu personnel parce que j'étais au Stade de France ce jour-là quand Armand Duplantis a passé les 6m25. Franchement, c'était une soirée de dingue. Il y avait tous les regards sur lui, c'était le dernier à sauter. De toute façon, voilà, il n'y avait plus que lui. Troisième essai, et Aurélien Tirsin nous fait vivre ça.
Les pas d'élan, la course d'élan de l'extraterrestre Armand Duplantis qui va planter la perche dans le but. Ça passe ! Ça passe ! 6m25 ! C'est monstrueux, comme d'habitude. Il voulait aller au bout de la soirée. C'est lui qui fait lever les 70 000 supporters. Il est pour la Suède, il est pour sa mère, il est pour sa copine, c'est pour Renaud Lavilloni, c'est Armand Duplantis, 9e record du monde, rien ne l'arrête.
Voilà, c'est vrai que voilà, c'était un moment assez incroyable au Stade de France. Voilà, il a fait lever tout le monde.
C'est fait plus de bruit qu'un but de l'équipe de France en demi-finale de Coupe du
Monde. Ah non, mais c'était.
Non, mais c'était en fait, François, il est tellement. Non, mais François, il a tellement l'habitude de la radio, c'est-à-dire qu'il fait le lien avec le débat précédent, parce que du coup, Armand Duplantis pour sa maman.
Eh oui.
Donc tu vois, voilà. Voilà. Tout
mais
tout
c'est le sens de la. Merci Marion. C'était fait exprès. tiens, un dernier moment parce que ça nous a été réclamé notamment sur le compte X des grandes gueules du sport. Donc quand même, quand on nous l'a demandé, évidemment, on peut vous l'offrir. Alors en athlétisme, on n'a pas vraiment brillé, mais nous sur RMC, on avait Renaud Longuèvre, notre consultant. Et c'est un des grands moments d'RMC.
Il a brillé.
Quand à chaque fois il y avait un athlète breton, et ben voilà ce que faisait Renaud Longuèvre. Sur RMC, écoutez bien.
Moi j'ai une question en début de journée. Y a-t-il des Bretons engagés samedi aujourd'hui?
C'est un Renaud, jingle.
Double jingle, c'est une bigoudaine qui est sur la piste.
Oh non, pitié.
Voilà, c'est fait.
Ça va mieux depuis ou
Je ne sais pas ce qu'est devenu Renaud Longuèvre, hein, mais voilà, lui,
on l'a perdu,
c'était
je crois.
Ses Jeux Olympiques à lui. Voilà, c'est ce qu'on retiendra de l'athlétisme français. Voilà, ça c'était pour Mika qui notamment nous suit sur les réseaux. Il voulait absolument, il en a fait sa sonnerie de téléphone, figure-toi. De cette hymne breton revisité. Voilà, on voulait se faire plaisir.
Trop
et
bon,
pour
bon.
Ceux qui ont encore du mal à tourner la page. Émission spéciale sur RMC cet après-midi, 15h-17h avec Arnaud Valadon et des entretiens exceptionnels. Un an après Paris 2024, il y aura les frères Lebrun, Benjamin Gaba, le basketteur Gershon Yabouzélé notamment. C'est sur RMC tout à l'heure, 15h-17h. Il y avait une émission spéciale hier aussi à retrouver en podcast sur RMC. Dans un instant, on revient dans les grandes gueules du sport avec notre débat autour du Ballon d'Or. Le PSG doit-il faire campagne pour Ousmane Dembélé? On en parle avec vous au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.